Chapitre 22. Des trilles dans la nuit. Couché sur le ventre, les yeux fermés, Matt savourait le contact des pouces de Melindra le long de sa colonne vertébrale. Après une journée en selle, existait-il rien de mieux que s'étendre sur ses couvertures pour un massage? Eh bien, pas mal de choses en vérité, mais pour l'heure, les pouces de Layel suffiraient.
Tu es très musclé, Matrim Cotton, pour un homme si petit.
Matt jeta un coup d'œil derrière lui. À califourchon sur ses hanches, Melindra transpirait à grosses gouttes, car le feu était deux fois plus puissant que nécessaire. Ses beaux cheveux blonds, coupés courts, n'étaient une sorte de queue de cheval, lui collaient sur le crâne.
« Si tu me trouves trop petit, tu peux te chercher quelqu'un d'autre. »«
Ai-je dit que tu étais trop petit à mon goût ?»
Melindra ébouriffa les cheveux du jeune homme, plus longs que les siens.
« En plus, tu es mignon. Détends-toi. » Sinon le massage ne te fera aucun bien. »
En marmonnant, Matt referma les yeux. « Mignon, lui ?»«
Pas la lumière. » »«
Et petit. » Seule une Aïel pouvait le qualifier ainsi. Dans tous les autres pays où il avait été, il dominait presque tous les hommes, même si ce n'était pas toujours de beaucoup. Et il avait toujours été grand. Plus que Rand même, quand il chevauchait contre Arthur Eldefaucon. Et un rien plus petit qu'actuellement, à l'époque où il combattait les Aelgari aux côtés de Mycine. Au sujet de ces noms, il avait interrogé Lan, prétendant les avoir entendus par hasard. Selon le champion, Mycine était un ancien roi des Haron, une des 10 nations. Cette information, Matt la connaissait déjà. Et il avait vécu 400 ou 500 ans avant les guerres des Trollocs. Toujours d'après Lan, même la Jamaron ne devait pas en savoir beaucoup plus, parce que beaucoup de connaissances avaient été perdues pendant les guerres des Trollocs, puis celles des Cent Années. Ses souvenirs étaient les plus lointains et les plus récents qu'on avait implantés dans le cerveau de Matt. Rien après Arthur Eldefaucon et rien non plus avant Mycine.
Aurais-tu froid ?
Demanda Melindra, incrédule.
Tu trembles ?
Elle se leva et Matt l'entendit ajouter du bois dans le feu. Ici, on n'en manquait jamais.
De solides muscles !
S'écria Layel en flanquant une claque sur le postérieur de Matt, juste avant d'y reprendre place.
Si tu continues comme ça. Je vais finir par croire que tu veux me faire rôtir à la broche ce soir, à la manière des Trollocs.
Même s'il appréciait Melindra, surtout lorsqu'elle s'abstenait de le taquiner sur sa taille, la situation commençait à mettre le jeune homme mal à l'aise.
« Pas de broche pour toi, Matrim Cotton. »
La promise appuya plus fort avec ses pouces.
« Détends-toi. Voilà, comme ça. »
Matt imaginait qu'il se marierait un jour, qu'il se rangerait, comme on disait. Une femme, un foyer, des enfants. Bref, enchaîné jusqu'à la fin de sa vie.
Je n'ai jamais entendu parler d'une épouse qui se réjouit quand son mari va boire un coup ou flamber un peu.
Les gens bizarres, de l'autre côté du terrain gréal, avaient dit qu'il épouserait la fille des 9 lunes.
Un homme doit bien finir par se ranger, j'imagine.
Peut-être, mais il n'avait aucune intention d'épouser une Aiel. Tant qu'il le pourrait, il entendait danser avec le plus de femmes possible.
Tu n'es pas fait pour rôtir sur une broche. Mais pour connaître de grands honneurs.
Un programme qui me convient.
Hélas, en ce moment, pas moyen qu'une autre femme s'intéresse à lui, que ce soit une promise ou non. Comme si Melindra lui avait accroché dans le dos une pancarte annonçant « Propriété de Melindra, promise du clan Jumaï des Aiel Shaido ». Enfin, elle se serait sans doute abstenue de préciser le dernier nom, en tout cas ici. Encore que pouvait prévoir ce que ferait une Aiel et en particulier une promise de la lance. Les femmes ne pensaient pas comme les hommes, c'était acquis. Et les Aiel ne pensaient comme personne en ce monde.
C'est étrange que tu t'effaces à ce point.
Moi ?
Melindra massait très bien, éliminant des nœuds dont Matt ignorait jusqu'à l'existence.
Comment ça, m'effacer ?
Était-ce en rapport avec le collier qu'il lui avait offert ? Pour tout dire, elle semblait y attacher une très grande importance, même si elle ne le portait jamais en digne promise. Mais elle le gardait dans une de ses sacoches et le montrait à toutes les femmes qui le lui demandaient. Et il y en avait un sacré paquet.
« Tu vis dans l'ombre de Randaltor ?»«
Je ne suis dans l'ombre de personne. »
marmonna Matt distraitement. Non, ce n'était pas le collier. Enfin, il avait déjà offert des bijoux à d'autres femmes, que ce soit des promises ou non. Il aimait se montrer généreux avec les jolies filles, même en échange d'un simple sourire. En fait, il ne s'attendait jamais à plus. Si une femme n'accordait pas la même valeur que lui à un baiser et un câlin, pourquoi en faire un drame ?
Bien sûr, il est honorable, en un sens, de se tenir dans l'ombre du Karakarne. Pour être proche des puissants, il faut accepter qu'ils vous cachent le soleil.
Le soleil, oui,
répéta Matt, qui n'écoutait pas vraiment. Les femmes lui ouvraient parfois les bras et parfois non, mais aucune n'avait jamais décidé qu'il lui appartenait. Ça, pas question qu'il l'accepte. Si belle soit-elle, il refusait d'être la propriété d'une femme, même si elle massait merveilleusement bien, entre autres choses.
Tes cicatrices devraient être celles d'un chef, des marques d'honneur gagnées en ton nom propre. Pas ça.
Du bout du doigt, Melindra suivit la trace boursouflée autour du cou de Matt.
L'as-tu récoltée au service du Karakarne ?
D'un coup d'épaule, Matt chassa la main de Layel, puis il se redressa sur les coudes pour la regarder.
Tu es sûr que fille de neuf lunes ne te dit rien ?
Je te l'ai déjà assuré. Recouche-toi.
Si tu me mens, je jure qu'il t'en cuira, au niveau du postérieur.
Les mains sur les hanches, Layel baissa sur Matt un regard peu commode.
Tu crois pouvoir me flanquer une fessée, Matt Cotton ?
J'essaierai, en tout cas.
Et tant pis pour la lance que tu me planteras dans le torse. Fille des neuf lunes, ça ne te parle pas ? Tu en fais le serment ?
Ça ne me parle pas du tout. De qui s'agit-il ? De quoi ? Couche-toi et laisse-moi.
Un merle siffla soudain, sous la tente et au dehors, comme si ce son venait de partout à la fois. Un peu plus tard, ce fut une grive. Deux oiseaux très communs de rivière, et qu'on ne trouvait pas dans le désert des Aiel. Rand avait choisi judicieusement ses alarmes. Sautant des hanches de Matt, Melindra enroula son choufa autour de sa tête, se voila, et s'empara de ses lances et de sa rondache. Puis elle sortit de la tente dans le plus simple appareil.
Non, par le sang et les fichus cendres !
Marmonna Matt, tout en s'efforçant d'enfiler son pantalon. La grive signalait le sud, et avec Melindra, ils avaient installé leur tente au sud, avec les Tcharines, et aussi loin de Rand qu'il était possible, sans sortir du large périmètre du camp. Pourtant, pas question de se balader tout nu, comme la guerrière, sur un terrain semé de buissons épineux. Le merle, lui, indiquait le nord, où campaient les Shaarad. Donc la menace venait de deux côtés en même temps. Après avoir mis ses bottes, un exercice compliqué sous une tente si basse, Matt regarda la tête de renard en argent posée à côté de ses couvertures. Dehors, des cris retentissaient, et des cliquetis de métal qui percutent du métal. Le médaillon. Au bout du compte, Matt avait compris que ce bijou avait empêché Moiraine de le guérir lors de sa première tentative. Tant qu'il touchait le médaillon, le pouvoir de la Aes Sedai n'avait eu aucun effet sur lui. S'il n'avait jamais entendu parler de créatures de ténèbres capables de canaliser, il restait la possibilité d'une attaque de l'Aja Noir. En tout cas, Rand l'affirmait et il le croyait, et l'éventualité qu'un des rejetés ait localisé le dragon réincarné. Prudence étant mère de sûreté, Matt passa autour de son cou la lanière de cuir où était accrochée la tête de renard. Puis il prit sa lance à hampe noire et sortit à son tour. Il n'eut pas le temps de s'apesantir sur la fraîcheur de la nuit. À peine après avoir mis la tête dehors, il manqua se la faire décoller des épaules par une lame incurvée de l'épée d'un troloc. Alors qu'il plongeait au sol, sa lance prête à frapper, le souffle du coup adverse lui fit frémir les cheveux. Dans l'obscurité, le troloc aurait pu passer pour un homme de grande taille, encore qu'on ne devait pas trouver beaucoup de gaillards plus grands que les Aiel de deux bonnes têtes en ce monde. Porteur d'une cotte de mailles noires, des piques aux coudes et aux épaules, l'agresseur arborait un casque qui semblait orné de cornes de chèvre. En réalité, les cornes en question jaillissaient de son crâne, et sous les yeux très humains du monstre, se trouvait un museau tout ce qu'il y avait de caprin. Vibrant de haine, le trolloc chargea en éructant des invectives qui ne ressemblaient à aucune langue humaine. Utilisant sa lance comme un bâton de combat, Matt orienta son étrange lame d'un côté, puis il l'enfonça dans le ventre de son agresseur. L'acier forgé par le pouvoir coupa comme du beurre la côte de maille, puis la chair qui se trouvait dessous. Alors que le trolloc se pliait en deux en hurlant de douleur, le jeune homme dégagea son arme et s'écarta de la trajectoire du très imminent cadavre qui basculait déjà en avant. Alentour, des aïels parfois nus ou à moitié vêtus, mais tous voilés de noir, combattaient des trollocs aux défenses de sangliers, à la gueule de loup ou au bec d'aigle. Que leur tête soit cornue ou surmontée de plumes, tous ces monstres maniaient ces étranges épées incurvées, des haches de guerre, des tridents à crochets ou des lances. Quelques-uns, armés d'un arc géant, décochaient sur les défenseurs des flèches de la taille d'un javelot. Des humains mal équipés, de simples vestes et des épées rudimentaires, combattaient aux côtés des trollocs et se faisaient massacrer en hurlant
« Samael !
Samael et les abeilles d'or !»
Si les suppôts des ténèbres tombaient comme des mouches face aux aïels, les trollocs y mettaient beaucoup moins de bonne volonté.
Je ne suis pas un fichu héros !»
cria Matt, ne s'adressant à personne en particulier, tandis qu'il affrontait un monstre à la gueule d'ours et aux oreilles poilues, son troisième adversaire de la soirée déjà. Armé d'une hache à long manche hérissée de piques et muni d'un tranchant assez gros pour couper un arbre d'un seul coup, le Trolloc la maniait comme un jouet, ce qui en disait long sur la taille de ses répugnantes poignes velues. C'était à Rand que Matt devait les galères de ce genre. Alors qu'il attendait quoi de la vie, sinon une bonne coupe de vin, une partie de dés endiablés et une jolie fille. Au moins.
« Je ne veux rien avoir à faire avec tout ça !»
Surtout si Samael était dans le coup.
« Hé ! Vous m'entendez, les monstres ?»
Le Trolloc à la hache ayant fini par succomber, la gorge tranchée, Matt se retrouva face à un Myrdraal, qui venait de tuer deux Aiel qu'il avait attaqués ensemble. Le demi-humain, la peau blafarde, arborait une armure qui semblait faite d'écailles comme la peau d'un serpent, et il se déplaçait avec la souplesse d'un reptile, sa cape noire restant immobile contre vents et marées. Et bien entendu, il n'avait pas d'yeux, mais seulement une bande de peau blanche là où ils auraient dû se trouver. Quand ce regard se riva sur lui, le jeune homme frissonna de terreur. Dans les terres frontalières, où les gens savaient de quoi il parlait, on disait que le regard d'un blafard était de la peur à l'état pur. Les Aiel eux-mêmes admettaient que se trouver face à un Myrdraal leur glaçait jusqu'à la moelle des os. Une arme formidable, si on y réfléchissait bien. Le blafard chargea à la vitesse de l'éclair. Rugissant, Matt se précipita à sa rencontre, sa lance tournant entre ses mains toujours comme un bâton. L'arme du Myrdraal, aussi noire que sa cape, avait été fabriquée dans les forges de Takandar. Une simple égratignure, et Matt pouvait dire adieu à la vie, sauf si Moiraine venait le guérir dans les quelques minutes suivantes. Mais en dépit des risques, l'attaque à outrance était le seul moyen de venir à bout d'un blafard. Ainsi, c'était lui ou vous, et on n'en parlait plus. En revanche, songer à se défendre était un suicide. Concentré sur son duel, Matt ne pouvait même pas jeter un coup d'œil à la bataille qui faisait rage autour de lui. Comme la langue d'un serpent, ou tel un éclair noir, la lame du Myrdraal zébrait l'air. Mais c'était pour parer les attaques de Matt, pas pour emporter elle-même. Chaque fois que l'arme forgée par le pouvoir et celle qui était née à Takandar se percutaient, des étincelles bleues enveloppaient les deux combattants, leur faisant comme une aura. Soudain, un des coups de taille de Matt trouva sa cible, tranchant net le bras armé du blafard. Doublant l'assaut, le jeune homme ouvrit la gorge de son adversaire. Pourtant, il ne s'arrêta pas là. Lui transperçant le cœur, il le frappa aussi à un jarret, puis à l'autre, sans prendre le temps de marquer une pause. Quand ce fut fait, il s'écarta de la créature qui se débattait encore sur le sol, tendant son bras intact et son moignon comme si elle voulait encore se battre. Les demi-humains avaient un mal de chien à reconnaître qu'ils étaient morts. Pour crever complètement, il leur fallait attendre le prochain coucher de soleil. Regardant enfin autour de lui, Matt s'avisa que la bataille était finie. Les Trollocs et les suppôts survivants, s'il y en avait, s'étaient débandés, car il ne restait plus que des Aiel. Mais eux aussi avaient subi de lourdes pertes. Récupérant le foulard qu'un suppôt mort portait autour du cou, Matt essuya la lame de sa lance souillée par le sang noir du blafard. Sinon, cette horreur risquait de corroder le métal. L'attaque de ce soir n'avait aucun sens, songea le jeune homme. D'après les dépouilles qu'il voyait à la lueur de la lune, les Trollocs et les suppôts n'étaient pas parvenus à dépasser la première ligne de tente. Et pour faire mieux, ils auraient dû être beaucoup plus nombreux.
« Qu'as-tu donc crié ?»
demanda une voix féminine.
« Caraï, je ne sais quoi. C'était de l'ancienne langue ?»
Matt se retourna vers Melindra. Son voile baissé, elle était toujours nue, à l'exception de son choufa. D'autres promises et plusieurs guerriers, aussi peu vêtus, évoluaient comme si de rien n'était. Cela dit, ils semblaient quand même assez pressés de regagner leur tente. Ces gens n'avaient aucune pudeur. Non, aucune. Et Melindra ne semblait même pas avoir froid, bien que son souffle se transformât en buée devant elle. En sueur comme elle, Matt grelottait, maintenant qu'il n'avait plus un Myrdraal pour le faire penser à autre chose.
« C'est un truc que j'ai entendu, »
dit-il.
« J'aime bien ces sonorités-là. »
« Caraï An Kaldazar, pour l'honneur de l'Aigle Rouge, le cri de guerre de Manéthéren. La plupart de ses souvenirs étaient liés à ce pays, certains étant antérieurs à la traversée du portique distordu. Selon Moiraine, c'était l'ancien sang qui ressortait, tant qu'il ne sortait pas de ses veines. Alors qu'ils retournaient à leur tente, Melindra passa un bras autour de la taille de Matt.
« Je t'ai vu contre le rôdeur de la nuit, Matt Cotton. »
Un des multiples noms que les Aiel donnaient au Myrdraal.
« Eh bien, tu n'es pas si petit que ça, tout compte fait. »
Ravi, Matt enlaça lui aussi sa compagne. Malgré sa satisfaction, il ne put pas se sortir l'attaque de la tête. Il aurait voulu, car ses souvenirs empruntés prenaient déjà beaucoup de place, mais il n'y parvint pas. Qui avait eu l'idée de cet assaut sans espoir? Seul un crétin se frottait sans raison à une force supérieure en nombre. Cette idée-là, surtout, l'obsédait. Personne n'attaquait sans motif. Les trilles d'oiseaux réveillèrent Rand, qui saisit le Saïdin, repoussa sa couverture et sortit sans sa veste ni ses bottes. Dans la nuit glaciale, il entendit des échos de bataille montant des collines au-dessous de la passe. Autour de lui, à la lueur de la lune, des aïels couraient vers les endroits où des attaquants pouvaient débouler dans ce secteur du camp. Si ça se produisait, il y aurait d'autres trilles. La présence de créatures des ténèbres dans la passe serait signalée par un champ de pinsons des arbres, car les protections resteraient actives jusqu'au matin, mais il valait mieux prévenir que guérir. Le calme revint très vite dans cette partie du camp. N'ayant pas le droit de porter des armes, même en de telles circonstances, les Gaïshines étaient restés sous leur tente, et les autres Aiel avaient tous rejoint leur poste de combat. Adeline et ses promises étaient parties aussi, craignant sans doute que Rand les retienne si elles s'attardaient trop. Non loin du mur de la ville, des murmures montaient des chariots à l'arrêt, mais ni Cadéré ni ses hommes ne s'étaient montrés. Rien de plus logique, bien sûr. Les bruits de bataille venaient de deux directions, toutes très éloignées de Rand. Des silhouettes s'agitaient aussi devant les tentes des matriarches, se précipitant vers le lieu des combats. Une attaque à cet endroit n'avait aucun sens. Sauf si Timolin avait accepté des créatures des ténèbres dans sa tribu, autant croire que des capes blanches pouvaient enrôler des trolloques, ça ne pouvait pas être les Miagoma. Retournant vers sa tente, Rand sursauta, même s'il dérivait dans son cocon de vide. Avienda était sortie, une couverture enroulée autour du corps. Derrière elle se tenait un grand homme enveloppé d'une cape noire. À la lueur de la lune, Rand vit que le visage de l'inconnu était bien trop pâle, avec des yeux trop grands. Alors que l'inconnu se mettait à fredonner, il écarta les bras, révélant que sa cape était en réalité une paire d'ailes semblable à du cuir comme celle d'une chauve-souris. Avançant comme dans un rêve, Avienda allait se jeter dans les bras du monstre. Un torrent de feu pas plus épais qu'un doigt jaillit dans les airs, flèche de lumière solide, ou de feu liquide, qui vint s'enfoncer dans la tête du Drakkar. Les effets de cet assaut plus mesuré furent plus longs que sur les chiens des ténèbres, mais tout aussi dévastateurs. Les couleurs du Drakkar s'inversèrent, le blanc virant au noir et le noir au blanc, puis il explosa en une multitude de lucioles scintillantes qui disparurent en un éclair. Avienda reprit ses esprits à l'instant où le chant cessa. Après avoir regardé un instant les étincelles, elle resserra les pans de sa couverture et se tourna vers Rand. Levant une main, elle en fit jaillir une lance de feu rugissante. Troublé même dans le vide, le jeune homme ne songea pas au pouvoir pour se défendre et se jeta simplement à terre. Le jet de flamme se dissipa en un clin d'œil.
« Tu es folle !»
cria-t-il, si furieux que le vide se craquela, le Saïdin lui échappant. Il se leva et fondit sur l'aïel.
« Je n'ai jamais vu une telle ingratitude !»
Bon sang, elle allait voir de quel bois il se chauffait.
« Je viens de te sauver la vie au cas où tu n'aurais pas remarqué. Et si j'ai violé je ne sais quel fichu coutumaïel, je m'en contre... la prochaine fois !»
coupa Avienda.
« Je laisserai le grand Karakarn se débrouiller tout seul. »
Tenant la couverture fermée, mais non sans peine, la jeune femme se détourna et rentra sous la tente. Rand eut alors l'idée de regarder derrière lui, où un autre Drakkar finissait de se consumer sur le sol. Hors de lui, il n'avait pas entendu crépiter les flammes, ni même senti l'odeur de la graisse brûlée. Et même pas la puanteur du mal. Pour tuer, un Drakkar volait d'abord l'âme de sa victime, puis il s'emparait de sa vie. Un contact était nécessaire, mais ce monstre se tenait à moins de deux pas de l'endroit d'où Rand avait plongé. Le chant d'une de ses horreurs agissait-il sur un homme empli par le Saïdin? Rand n'en savait rien, et il se félicitait de ne pas avoir eu à le découvrir. Après avoir pris une grande inspiration, il s'agenouilla devant le rabat de la tente.
« Avienda ?»
Pas question d'entrer. Une lampe brûlait, et la jeune femme pouvait être assise, nue, sur ses couvertures, le maudissant comme il le méritait.
« Avienda, je suis désolé. Excuse-moi. J'ai été idiot de t'agresser sans demander pourquoi tu avais agi. Je devrais savoir que tu ne me veux pas de mal. Oui, je suis un crétin. Quelle sagesse, Rodaltor ! Et quelle clairvoyance ! Car tu es bel et bien un crétin. »
Comment un aïel s'excusait-il ? Rand n'avait jamais posé la question à sa formatrice. Songeant au Gieto, aux coutumes matrimoniales et aux hommes à qui on apprenait à chanter, Il jugea plus judicieux de s'en abstenir.
C'est vrai, et je m'excuse.
Pas de réponse.
Es-tu sous tes couvertures ?
Silence. En marmonnant, Rand se releva et sauta sur la pointe de ses doigts de pied, gelés dans leurs chaussettes de laine. Même sans veste ni bottes, il allait devoir rester dehors tant qu'il n'aurait pas la certitude qu'Avienda était visible. Recourant au Saïdin, tant pis pour la souillure, il s'isola du froid en se réfugiant dans le vide. Les trois matriarches capables de marcher dans les rêves ne tardèrent pas à arriver, avec Egwene, bien entendu. Regardant le dragcar carbonisé, elles le contournèrent tout en tirant nonchalamment sur leur châle.
« Un seul, »
dit Amys.
« J'en remercie la lumière, mais ça me surprend. »
« Il y en avait deux, »
corrigea Rand.
« J'ai détruit l'autre. »
Pourquoi être si vague ? Parce que Moiraine l'avait mis en garde contre les torrents de feu ? Après tout, c'était une arme comme les autres.
« Si Avienda n'avait pas éliminé celui-là, je ne serais peut-être plus de ce monde. »«
Nous avons senti qu'elle canalisait le pouvoir, »
dit Egwene.
« C'est pour ça que nous sommes venus. »
Voyant qu'elle l'étudiait attentivement, Rand pensa d'abord qu'elle cherchait à voir s'il était blessé. Quand elle fronça les sourcils en avisant ses pieds sans bottes, puis regarda la tente, d'où filtrait de la lumière, elle comprit qu'il n'en était rien.
« Tu l'as encore brutalisée, c'est ça ? Elle t'a sauvé la vie et toi ? Oh, vraiment, les hommes !»
L'air dégoûté, Egwene passa devant Rand et entra sous la tente. Presque aussitôt, des murmures s'élevèrent, mais il ne comprit pas ce que disaient les deux femmes.
« Si tu n'as pas besoin de nous, »
dit Melaine en ajustant son châle.
« Nous devons aller voir ce qui s'est passé en bas. »
Elle partit sans même attendre les deux autres.
« On parie sur l'identité de la première personne de qui elle voudra des nouvelles ?»
demanda Beyr à Amys, tandis que les deux femmes emboîtaient le pas à leurs collègues.
« Mon collier d'améthyste, celui que tu aimes tant, contre ton bracelet de saphir. Top là, je mise sur Dorinda. Melaine a encore les yeux pleins de Baël. Une presque sœur, c'est important. » Mais un nouveau mari.
Quand les trois femmes furent hors de vue, Rand s'agenouilla devant le rabat de la tente. Pour entendre, il aurait dû y coller l'oreille, et ça, c'était hors de question. Et Gwen étant là, Avienda avait dû se couvrir, non ? Sauf si son amie d'enfance, convertie aux coutumes Aiel, s'était au contraire dévêtue. Des bruits de pas légers annonçant l'approche de Moiraine et de Lan, Rand se redressa. Les bruits de pas, c'étaient ceux de Moiraine, car le champion parvenait à marcher dans un silence presque total. Les cheveux défaits, Aes Sedai s'était enveloppée dans une robe de soie sombre qui brillait sous la lune. Habillée, bottée et équipée, Lan portait la cape qui lui permettait de se confondre avec la nuit. Dans les collines, les échos de la bataille mouraient.
« Je suis étonné que vous ne soyez pas arrivé plus tôt, Moiraine. »
Rand trouva sa voix glaciale, mais il préférait ça à se geler lui-même. Relié au Saïdin, luttant contre la souillure, il n'était pas affecté par le froid. Il en avait conscience, comme il sentait la chair de poule le long de ses bras, mais ça ne le touchait pas.
« En général, vous venez me voir dès que vous sentez un problème. »
« Je n'ai jamais expliqué à personne ce que je fais ou ne fais pas. »
Le ton serein, glacé et mystérieux, Aes Sedai paraissait telle qu'en elle-même. Pourtant, Rand aurait juré qu'elle rougissait. Lan aussi semblait troublée, même si avec lui, c'était difficile à déterminer.
« Rand, je ne te tiendrai pas toujours la main. Il faudra apprendre à marcher seul.
Ne l'ai-je pas fait ce soir ?»
Une vague honte s'insinua dans le vide. Exprimé comme ça, ça semblait dire qu'il avait tout fait seul.
Avienda s'est chargé de mes arrières.
Le dracar était presque consumé à présent.
Alors je me félicite qu'elle ait été là. Comme ça, tu n'as pas eu besoin de moi.
La peur n'expliquait sûrement pas l'absence de l'Aes Sedai. Plus d'une fois, il l'avait vu charger des créatures des ténèbres en maniant le pouvoir aussi habilement que l'âne maniait son épée. La peur étant exclue, pourquoi n'était-elle pas venue lorsqu'elle avait senti les dracars ? Car elle avait dû les sentir. C'était dans ses aptitudes, et également dans celles de l'âne, au moins indirectement. Un des dons qu'un champion retirait du lien qui l'unissait à son Aes Sedai. Rand aurait pu obliger Moiraine à répondre, en jouant du serment qu'elle lui avait prêté et de l'interdiction de mentir liée à son statut de sœur. Mais non, il ne le ferait pas. Traiter ainsi quelqu'un qui s'efforçait de l'aider aurait été indigne.
« Au moins nous savons à quoi servait l'attaque massive, »
dit-il.
« Une manière de détourner mon attention pendant que les dracars se glissaient dans mon dos. Nos ennemis ont essayé cette tactique à la forteresse des Roquefroids. Et ça n'a pas mieux marché qu'ici. »
En fait, ça avait failli réussir ici, si c'était vraiment le plan.
On aurait pu croire qu'il tenterait autre chose.
Couladine devant lui et les rejetait partout autour. Pourquoi Rand ne pouvait-il pas affronter un ennemi à la fois ?
Ne va surtout pas croire que les rejetés ne sont pas très malins,
dit Moiraine.
Car ça pourrait être une erreur mortelle.
Elle tira sur sa robe, comme si elle regrettait qu'elle ne soit pas plus épaisse.
Il est très tard. Si tu n'as plus besoin de moi.
Tandis que l'Aes Sedai et le champion s'éloignaient, des aïels commencèrent à revenir. Certains crièrent quand ils aperçurent le Drakkar, puis réveillèrent quelques Gaishine pour qu'ils emportent au loin la dépouille. La plupart, cependant, jetèrent à peine un regard au monstre mort avant de retourner sous la tente. Dans le sillage de Rand, certaines choses ne les étonnaient plus. Adeline et les promises revinrent aussi, mais en traînant des pieds. Regardant la dépouille que des hommes en robe blanche tiraient à l'écart, elles se consultèrent longuement du regard avant d'approcher de Rand.
« Il ne s'est rien passé ici, »
annonça Adeline.
« L'attaque a eu lieu plus bas. Des suppôts et des trolloques. Qui criaient « Samael et les abeilles d'or !»
précisa une autre guerrière.
« J'ai entendu. »
La promise portant son choufa, Rand ne parvint pas à l'identifier. À sa voix, elle devait être jeune. Certaines guerrières n'avaient pas plus de 16 ans. Adeline prit une grande inspiration, puis, sans trembler, elle tendit à l'horizontale une de ses lances. Toutes ses compagnes l'imitèrent.
« Nous... j'ai échoué, »
dit Adeline.
« Nous aurions dû être ici quand les Drakkar t'ont attaqué, et nous avons préféré aller danser avec les lances comme des gamines. »«
Que suis-je censé faire des lances que vous me tendez ?»«
Ce qu'il te plaira, Karakarn. Nous sommes prêtes, et nous ne résisterons pas. »
Ces maudits Aiel et leur Gietto de malheur.
Eh bien, gardez vos armes et retournez veiller sur ma tente. Compris ? Exécution.
Après s'être regardées, les promises commencèrent à obéir, mais là aussi en traînant les pieds.
Et que l'une de vous dise à Avienda que je ne resterai pas dehors quand je reviendrai.
Pas question qu'il passe toute la nuit à se demander si l'Aiel était visible ou pas. En attendant, il partit à grands pas, le sol rocheux lui gelant les pieds à travers ses chaussettes. La tente d'Asmodéa n'était pas loin de la sienne. Depuis le début de l'attaque, pas un son n'en était sorti. Ouvrant le rabat, Rand se pencha et entra. Assis dans le noir, le rejeté se mordait la lèvre inférieure. Sursautant lorsqu'il vit Rand, il ne lui laissa pas l'occasion de parler.
« Tu ne pensais pas que j'allais m'en mêler, pas vrai ? J'ai senti les Drakkar, mais tu es de taille à t'en sortir contre eux. Et d'ailleurs, tu l'as fait. Je n'ai jamais aimé ces monstres. » Leur donner le jour fut une erreur. Sais-tu qu'ils sont encore plus idiots que les Trollocs ? Même si on leur donne un ordre précis, ils tuent tout ce qui bouge. Si j'étais sorti pour intervenir, que serait-il arrivé si quelqu'un s'en était aperçu ? En voyant, par exemple, que ce n'était pas toi qui canalisais le pouvoir. Tu as bien fait de ne pas prendre ce risque,
coupa Rand en s'asseyant en tailleur dans l'obscurité.
Si tu étais sorti, empli de Saïdine, je t'aurais peut-être bien tué. J'avoue avoir pensé à ça aussi.
Fit Asmodéan avec un rire qui sonnait faux.
L'attaque venait de Samael. Enfin, celle des suppôts et des trolloques. Perdre des troupes pour rien ne lui ressemble pas. En revanche, il sacrifierait bien 10 000 vies, voire 10 fois plus, si l'enjeu lui semblait en valoir la peine. Un des autres veut peut-être te faire croire que c'était lui. Même si les Aiel ont fait des prisonniers, les trolloques n'ont rien dans la tête, et les suppôts croient tout ce qu'on leur raconte. C'était lui. Jadis, à Serendar, il a recouru à la même méthode pour tenter de m'inciter à l'attaquer.
Par la lumière, j'ai parlé comme si ça m'était vraiment arrivé.
En réalité, il ignorait où était Serendar et ce qui avait bien pu s'y passer. Mais les mots étaient sortis tout seuls.
Je n'étais pas au courant,
dit Asmodéan après un assez long silence.
La question c'est, pourquoi avoir agi ainsi ?
Rand avait choisi ses mots avec précaution, histoire d'être sûr que c'était bien les siens. Il se souvenait du visage de Samael. Un homme...
Non, ce ne sont pas mes souvenirs.
Un homme petit et râblé, avec une courte barbe blonde. Et si Asmodéan lui avait décrit tous les rejetés, il savait que cette image ne venait pas de là. Samael avait toujours voulu être plus grand, et il enrageait que le pouvoir ne puisse rien faire pour lui sur ce plan. Et ça, Asmodéan n'y avait jamais fait allusion.
D'après ce que tu m'as dit, il n'est pas du genre à m'affronter sans être sûr de vaincre. Et encore, puisque selon toi, il préférerait me laisser aux ténébreux. Alors pourquoi est-il certain qu'il gagnerait si j'attaquais maintenant ?
Les deux hommes conversèrent jusqu'à très tard dans la nuit. Asmodéan n'en démordit pas. Un autre rejeté avait voulu faire croire à Rand que c'était Samael, histoire de provoquer un duel et de se débarrasser au moins de l'un d'eux. Durant tout le dialogue, Rand sentit poser sur lui le regard intrigué du rejeté. Bien entendu, sa boulette au sujet de Serendar n'était pas passée inaperçue. Lorsque le jeune homme retourna finalement à sa tente, Adeline et les 10 autres promises se levèrent toutes d'un bond pour lui annoncer avec un bel ensemble qu'Egwene était partie, qu'Avienda dormait et que les 2 jeunes femmes étaient furieuses contre lui. Il s'ensuivit une telle avalanche de conseils sur la manière de régler le problème que Rand, ne sachant plus où donner de la tête, n'en comprit aucun. Puis les guerrières se turent enfin, laissant parler Adeline.
Nous devons revenir sur ce qui est arrivé ce soir, ce que nous avons fait et ce que nous n'avons pas su faire. Nous,
ce n'était rien, et dans le cas contraire, ce serait déjà pardonné et oublié. Pour une fois, j'aimerais bien dormir. Si vous avez besoin de vous épancher, allez voir Amis ou Beyr. Je suis certain qu'elles comprendront mieux que moi vos tourments.
Contre toute attente, cette déclaration laissa les promises sans voix, et Rand en profita pour entrer sous sa tente. Avienda était sous sa couverture, une fine jambe nue en dépassant. Bien entendu, elle avait laissé une lampe allumée. S'efforçant de ne pas regarder la peau nue de la jeune femme, Rand se glissa sous ses propres couvertures, éteignit la lampe avec le pouvoir et se coupa du Saïdin. Cette fois, il rêva qu'Avienda projetait des lances de feu, mais pas sur un Drakkar. Et Samael, assis à côté d'elle, riait aux éclats.